Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.
Bonjour. En 1152, un divorce entraîne une guerre qui a duré 301 ans. Aliénor d'Aquitaine, reine de France, est l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire. Elle quitte Louis VII pour se remarier 6 semaines plus tard avec le roi Henri II d'Angleterre. Elle dépose donc entre les mains des Anglais une région qui occupait presque un quart de la France. Le roi Louis, forcé de reconnaître à Henri le titre de duc d'Aquitaine, est fou de rage. La raison du divorce ? La légende dit que lorsque Louis était rentré des croisades, Aliénor lui avait reproché d'avoir rasé sa barbe, ce qu'elle trouvait fort laid. Comme il refusait de la laisser repousser, elle a rompu avec lui. Cela allait amener 3 siècles de conflits perpétuels entre les deux pays, dont la guerre de Cent Ans. La paix et la stabilité ne furent pas restaurées avant 1453, suite à la bataille de Rouen, lorsque les Anglais furent chassés de toute la France. Comme quoi, parfois le cours de l'histoire ne tient qu'à un poil, même si c'est une légende, bien sûr. Bienvenue dans Moments d'Histoire, la nouvelle émission sur Prune 92 FM qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'histoire et ceux qui la font. Nous nous reverrons tous les 3e jeudi du mois, entre midi et 13h. Pour cette première émission, on va parler commerce triangulaire. Ce matin, j'ai eu la joie de recevoir Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Nous nous sommes entretenus sur l'histoire de la traite négrière et du travail de mémoire dans la cité des Ducs. Nous écouterons son entretien en deuxième partie d'émission. Avant ça, nous accueillons notre premier invité, Thomas Boileau. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous avez 24 ans, vous êtes actuellement en master recherche à l'Université de Nantes. Dans quelques jours, vous allez soutenir votre mémoire de recherche. Quel en est l'intitulé exact ?
Alors, ce sont les stratégies de pénétration commerciale française aux Indes espagnoles dans un contexte de rapprochement franco-espagnol entre 1698 et 1715.
Quand on a une vision de l'extérieur et que l'on voit la spécificité de votre sujet, on s'interroge sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à votre sujet ?
Alors, j'ai fait une licence d'histoire, plus par curiosité que par véritable passion. Et au final, je me suis rendu compte que l'histoire me plaisait beaucoup. J'ai donc continué en master. J'ai contacté des professeurs pour un sujet de mémoire, donc je voulais quelque chose qui sorte un peu de France et qui touche un peu tout ce côté exploration, étranger, au-delà. Et donc on m'a proposé ce sujet, sujet assez commercial, dont l'intitulé est assez barbare hein, pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, mais qui m'a permis d'étudier les échanges commerciaux, culturels, politiques entre l'Europe et les Amériques.
Justement, avant d'aller plus loin, il est important de définir pour nos auditeurs quelques concepts. Quelles sont les Indes espagnoles ?
Alors, les Indes espagnoles, géographiquement, c'est toute l'Amérique espagnole, exception faite, toute l'Amérique du Sud, sauf Brésil. Donc vous prenez de la pointe argentine, de Buenos Aires, jusqu'à l'espace caribéen, l'Amérique centrale. Et ensuite, dans les Indes espagnoles, était aussi comptée la Californie, tout le sud des États-Unis actuels, et la Floride, et bien sûr Cuba et Saint-Domingue, actuel Haïti.
D'accord. Pourquoi cet espace à l'autre bout du monde suscite-t-il autant les convoitises des États européens à cette période ?
Alors, les Amériques ont une production coloniale, donc c'est tout ce qui est sucre, tabac, indigo, des fruits, des cuirs, qui rapportent énormément sur les marchés européens, mais surtout, c'est l'origine des métaux précieux. Les Espagnols y ont trouvé des mines, comme la mine du Potosi, qui sont très riches en argent, un peu moins en or, mais également. Donc il y a les mines du Mexique et les mines du Pérou, qui rapportent énormément de métal précieux en Europe, et le métal précieux, c'est la source de la richesse, et ça fait de l'Espagne la royauté la plus riche d'Europe au XVIe siècle, et donc une création de légendes tout autour de... des Amériques, donc le mythe de l'Eldorado, tout ça, qui créait une énorme convoitise de la part des autres pays européens.
Et donc ces échanges avec les Indes espagnoles s'effectuaient par le biais de la navigation. pouvez-vous nous décrire la situation commerciale en outre-Atlantique durant l'époque moderne ?
Alors, les Amériques sont... Bon, on a dit qu'ils faisaient... que les Amériques produisaient une production coloniale, mais elles sont également dépendantes de l'Europe en produits manufacturés et en esclaves, parce que c'est un système qui est entièrement conçu sur l'esclavage et que le système colonial ne peut tourner sans l'apport en main-d'œuvre servile. Et donc, on voit à cette époque trois moyens de commercer avec l'Amérique pour les royaumes étrangers et non l'Espagne. C'est la voie indirecte, c'est-à-dire s'immiscer dans le commerce espagnol directement, et ça passe par la ville de Cadix, d'abord par Séville, puis par Cadix. Donc sur ça, on peut lire les ouvrages de Manuel Bustos Rodríguez, qui est un professionnel de la question gaditane. Il y a la voie directe, qui est la voie de contrebande, donc c'est armer des vaisseaux soit directement de France, soit des îles, donc pour les Anglais c'est la Jamaïque, pour les Hollandais c'est Curaçao, les Français le font de Saint-Domingue et de la Martinique, et les professionnels de la contrebande armés depuis la France, ce sont les Malouins, et donc sur l'armement Malouin, que ce soit à Cadix, dans le commerce, dans la voie indirecte ou dans la voie directe, il faut voir le grand ouvrage de André l'Espagnol sur Messieurs de Saint-Malo, qui est assez brillant sur la question. Et le troisième moyen de commercer, c'est la traite des Noirs, c'est l'asiento, c'est un moyen de pénétrer les ports.
Et pouvez-vous nous dire ce que c'est l'asiento ?
Alors, l'asiento, dans le droit espagnol, c'est un contrat passé entre la couronne d'Espagne, donc l'État, et un particulier. C'est une permission de faire la traite des Noirs pour le compte du roi d'Espagne, donc c'est une permission de déporter des captifs africains dans les ports des Indes. Mmh. Et par extension, c'est un moyen pour les étrangers de briser le monopole et l'exclusif colonial des Indes espagnoles qui étaient imposées. Seuls les Espagnols autorisés par la couronne pouvaient pénétrer dans les ports des Indes. Et l'asiento permettait de faire sauter cet exclusif. Donc on peut imaginer que s'il y a une porte aux Indes espagnoles, l'asiento pour les étrangers, c'est la clé.
Très bien. Merci Thomas Boileau. Après une pause musicale, on recentrera nos propos sur la place de la France dans ce commerce maritime.
Thank you.
September 2nd de Michel Petrucciani. Vous êtes de retour dans Moment d'Histoire sur Prune 92 FM, la toute nouvelle émission consacrée à l'histoire locale et ceux qui la font. Avant la pause musicale, nous parlions avec Thomas Boileau de son sujet de recherche intitulé « Les stratégies de pénétration commerciale française aux Indes espagnoles, 1698-1715 ». Pouvez-vous justement nous expliquer la situation de la France entre 1798 et 1715 ?
Alors, en Europe, à cette période, on est au sortir de la guerre de l'île d'Augsbourg, donc après le traité de Ryswick en 1697. Donc déjà, cette guerre et ce traité préfigurent un renversement des dominations européennes aux Amériques. Donc on voit nettement l'émergence d'un... Si je peux prendre cette expression, d'un triumvirat maritime qui est incarné par... l'Angleterre, les Pays-Bas et la France. Et en 1700, c'est la mort de Charles II d'Espagne qui entraîne un grand bouleversement géopolitique en Europe. Donc on essaye de voir un peu comment est-ce que les puissances européennes vont se départager l'héritage des Habsbourg d'Espagne, donc c'est-à-dire l'Italie, mais surtout les Indes. C'est les Indes. Qui aura les Indes espagnoles ? Et bah finalement, c'est le petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Orléans, donc, qui accède à la couronne, qui devient Philippe V. Donc il y a là un très fort rapprochement, presque une union franco-espagnole à la tête de la France. Et le risque que cela fait planer, que la France s'accapare les Indes espagnoles, entraîne la guerre de succession d'Espagne.
Et donc,
l'Alliance.
Et c'est dans ce contexte que le Royaume de France a obtenu l'assiento ?
Exactement. En fait, la France déploie une stratégie. Elle ne veut plus seulement retirer les richesses des Indes, mais le faire légalement, pour que l'État puisse en profiter. Et dans ce contexte, l'assiento, c'est quand même un atout de poids. Donc le rapprochement des deux couronnes avec l'accession d'un Bourbon au trône d'Espagne, ça offre à la France et à Louis XIV une occasion absolument unique de prendre l'assiento au détriment de ses concurrents directs et qui deviendront ses ennemis, qui sont les Anglais et les Hollandais. Et dans cette obtention, on peut en retirer la figure d'un personnage, c'est le rôle de Jean-Baptiste Ducasse.
D'accord.
Donc à son propos, je vous renvoie à l'œuvre de Philippe Rodèche qui a fait le portrait de cet homme à la carrière assez surprenante. Donc c'est la figure d'un marchand devenu officier puis gouverneur de Saint-Domingue qui négocie l'assiento, et de plus en plus dans les négociations internationales, comme c'est le cas pour l'assiento, comme ce sera le cas pour le traité d'Utrecht à la fin de la guerre de succession d'Espagne, on voit de plus en plus l'intervention de ces acteurs qui ne sont pas seulement diplomates mais qui sont aussi marchands et qui maîtrisent la technicité commerciale.
D'accord. Donc, pour rappel, l'assiento, c'est un contrat avec la couronne d'Espagne qui octroie le monopole commercial. Et donc ici, c'est notamment pour la traite négrière. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette période de l'assiento ?
Alors, l'assiento français donc, a été confié à une compagnie à monopole qui a pris le nom de compagnie de l'assiento ou compagnie de l'assiento, plusieurs appellations. C'est un échec.
Un échec
désastreux. Donc, ils n'arrivent pas à remplir leurs chiffres. C'est une faillite et ça signe aussi un échec de la politique française qui voulait utiliser cet assiento comme levier finalement pour pénétrer le commerce des Indes. Donc suite au traité d'Utrecht en 1713-1714, les Anglais en 1713, c'est d'ailleurs la première chose que les Anglais récupèrent, c'est l'assiento. Avant même qu'il soit question de paix, il était question de commerce et d'assiento. Donc les Anglais le récupèrent, ils le récupéreront jusqu'en 1750 et ils parviendront à lever l'exclusif colonial espagnol aux Indes, ce que les Français n'ont pas réussi à faire. Qu'est-ce qu'on peut en retenir malgré l'échec ? Il y a en France tout un processus de remise en question.
D'accord.
Du système de compagnie à monopole. Il y a, on voit de nombreux témoignages, quand l'assiento a été donné à une compagnie à monopole, une levée de boucliers dans le milieu des négociants maritimes et des armateurs des ports de France qui voyaient une espèce d'accaparation du marché par des financiers parisiens. Donc on notait le commerce de France au commerçant français pour le mettre dans la main des financiers. Et donc c'est quand même quelque chose qui a une résonance assez contemporaine. Donc
maintenant, nous sommes en 1715. Le royaume de France est dans une situation politique instable. Le roi Louis XIV est mort. On entre dans une régence avec le petit Louis XV, alors âgé de 5 ans. On a vu que l'économie était difficile. Comme on disait, la France perd son privilège pour le commerce des esclaves avec l'Espagne. J'ai une question, c'est comment la France va se remettre de cette période difficile ?
Alors, savoir qu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne, l'objectif c'était la paix. La France est épuisée financièrement et épuisée tout court, dans tous les sens du terme. Et donc ils ont tout bradé, ils ont bradé la Ciento, vraiment pour rien, ils l'ont donné, l'objectif c'était la paix. Et donc à partir de ce moment, il y a une sorte de rupture ou de transition, je ne sais pas quel terme irait le mieux, mais la France abandonne totalement ses aspirations de pénétrer ce marché des Indes. Les Malouins vont continuer à armer en contrebande, mais cette aspiration très forte qu'il y a eu pendant une quinzaine d'années sur pénétrer légalement le marché est totalement abandonnée, et ce qui entraîne un repli français sur ses propres colonies, donc Saint-Domingue, la Martinique, toutes ces colonies sucrières qui vont développer le sucre et en faire le fer de lance de l'économie coloniale. Et donc c'est là qu'on va voir la mise en place d'une traite des Noirs à une échelle quasi industrielle, systématisée, et où la traite, au sens traite française au sens où on l'entend, va véritablement débuter, et qui découle de cet échec à pénétrer les Indes espagnoles.
Merci Thomas Boileau, grâce à toi on a pu avoir une petite situation du commerce en Atlantique durant l'époque moderne. Avant de démarrer la deuxième partie d'émission, j'ai passé une petite bande-annonce.
Moment d'histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Du passé négrier nantais restent les façades des maisons bourgeoises de l'île Feydeau et du quai de la Fosse. Elles sont le témoin d'une époque riche et contrastée qui a profondément marqué la ville. Qu'est-ce qui a poussé les armateurs nantais à se lancer dans la traite négrière ? Quel en a été son impact sur la ville ? S'est-elle déroulée de la même manière du XVIIe siècle au XIXe siècle ? Comment Nantes a décidé d'assumer son passé à l'aube du XXIe siècle ? Pour éclaircir ces interrogations, j'ai reçu ce matin dans nos locaux Bernard Michon, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Bernard Michon, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
Bonjour, merci à vous de m'avoir sollicité.
Avant de commencer notre entretien, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes maître de conférence d'histoire moderne à l'Université de Nantes et directeur adjoint du CRHIA, qui est le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Cette année, vous animez une nouvelle émission radio, Les Voix de l'Histoire, chez nos confrères de radio. Est-ce que vous voulez nous en dire plus en quelques mots ?
Oui, cette émission a été décidée. Hein, collègues de radio avec qui nous avons une tradition un petit peu de ponctuelle de travail, nous ont sollicité pour proposer une émission d'histoire sur l'histoire de l'Europe dans un sens très large. Et cela correspond bien à un certain nombre de thématiques qui sont développées au sein de notre centre de recherche et nous avons accepté, avec l'idée de faire participer des doctorants qui animent l'émission avec moi ponctuellement. Donc on a pu faire les premiers enregistrements et prochainement une émission sera diffusée avec un collègue italien qui a répondu à l'invitation d'Annick Peters Susto, donc Amedeo Feniello.
Très bien, bon, on vous écoutera.
C'est gentil.
Parmi vos nombreuses publications, je pourrais citer l'ouvrage scientifique Le port de Nantes au XVIIIe siècle, construction d'une ère portuaire édité par Presse universitaire de Rennes en 2011. Vous avez dirigé de nombreuses revues, cahiers des anneaux de la mémoire, notamment les numéros 11 et 15 consacrés au port et à la traite négrière. Et plus dernièrement, en 2018, vous avez publié avec Nicole Dufourneau Les actes des journées d'études de Nantes en 2016, Femmes négocent dans les ports européens, aux éditions Peter Lang. Votre exercice se porte sur l'histoire portuaire, maritime et l'histoire de la traite des Noirs en Atlantique. Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à vous spécialiser dans ces domaines ?
Lorsque j'ai fait mes études d'histoire, j'ai souhaité pouvoir travailler sur l'histoire maritime et l'histoire portuaire. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du port de Nantes au XVIIe siècle. Puis, dans le cadre de la thèse que j'ai soutenue sous la direction du professeur Guy Saupin, XVIIe et XVIIIe siècle. C'était une histoire de ce que l'on avait appelé l'ère portuaire de Nantes, hein, c'est-à-dire la manière dont le port de Nantes fédère autour de lui un certain nombre de ports de l'estuaire de la Loire, de l'approche face à l'Atlantique, au moment où il devient un grand port colonial. Donc ma thèse n'était pas directement en lien avec l'histoire de la traite des Noirs. Cependant, évidemment, dans les recherches archivistiques que j'avais eu l'occasion de faire, la traite est apparue, évidemment, très présente. Et après la thèse, hein, que j'ai soutenue en 2005, dans le cadre d'un programme de recherche, j'ai pu commencer à m'intéresser à la traite des Noirs. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Marc Massot, hein, le directeur de la revue des Cahiers des Anneaux de la Mémoire. Et puis, je dirais, l'aventure s'est un peu enclenchée de cette manière-là. Je dirais, de la traite, je m'intéresse davantage maintenant à l'esclavage colonial et à la manière dont fonctionnent les sociétés autour des habitations esclavagistes.
D'accord. Donc, située en fond d'estuaire à la croisée des routes terrestres et fluvio-maritimes, Nantes possède une situation géographique idéale pour se tourner vers l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation du port avant de prendre part au commerce triangulaire ?
Alors, Nantes est un port qui travaille, donc c'est un port très ancien, hein, qui remonte évidemment à la période antique et qui se développe à l'époque médiévale. C'est un port de fond d'estuaire, vous l'avez dit. C'est un port qui est déjà une ville importante, hein, à l'échelle du royaume de France. Et les principaux commerces, hein, qui sont pratiqués à la fin de l'époque médiévale, c'est les commerces du vin, du sel et des blés. Hein, donc, trois composantes, hein, de ce qu'on appelle la trilogie médiévale. Et puis, Nantes est une place qui est située en position de carrefour et en particulier qui entretient des liens étroits avec la péninsule ibérique, avec la Castille en particulier. Et tout un commerce se met en place, en particulier le commerce des laines de Castille. Ce commerce vient positionner finalement Nantes dans un axe commercial qui va de la péninsule ibérique en gros jusque aux Flandres, c'est-à-dire au nord du royaume de France. Et finalement, Nantes est bien positionnée sur cette route commerciale. S'ouvre au XVIe et XVIIe siècle également une ouverture en direction de l'Atlantique à travers la grande pêche morutière à Terre-Neuve, qui donne, j'allais dire, d'une part aux marchands nantais une expérience des armements transatlantiques et d'autre part qui permet aussi une accumulation du capital qui sera réinvesti dans un premier temps dans le commerce antillais, naissant au milieu du XVIIe siècle, et progressivement dans la traite des Noirs.
Et justement, pourquoi à la fin du XVIIe siècle, pardon, ce port a-t-il choisi de s'engouffrer dans la traite négrière ?
Alors, ça, c'est une question qui est évidemment centrale, qui n'est pas complètement tranchée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Nantes devient au XVIIIe siècle le premier port négrier français, mais domine à ce point les autres places portuaires ? Hein, je rappelle simplement quelques chiffres, hein, mais Nantes, c'est l'ensemble de la période qui va du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est 1800 expéditions de traite, c'est environ 550 000 hommes, femmes, enfants déportés dans le cadre de ces expéditions. Au XVIIIe siècle, hein, qui est la période extrêmement importante pour la traite, Nantes représente à elle seule un peu moins de la moitié des expéditions françaises. Alors effectivement, on peut se demander pourquoi une telle domination. Alors, Nantes, je dirais, s'engage dans la traite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par le biais d'un certain nombre de compagnies. On est à ce moment-là dans l'idée que cette activité négrière, la traite, doit être une activité réservée à des compagnies qui disposent d'un monopole. Et certaines de ces compagnies vont choisir Nantes comme port d'armement. Donc là, il y a déjà une première expérience de la traite qui se met en place. Ensuite, on peut dire que les Nantais sont à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, extrêmement bien positionnés dans les réseaux versaillais. Un négociant comme Joachim d'Escazo du Halay est quelqu'un qui a, je dirais, l'écoute des dirigeants. Enfin, on a à Nantes un certain nombre de négociants armateurs, et je pense en particulier dans les premières années du XVIIIe siècle, les frères Montaudoin vont vraiment se lancer dans la traite privée, par contre. C'est-à-dire qu'au moment où les compagnies à monopole déclinent parce qu'elles sont dans l'incapacité de satisfaire les demandes des planteurs en captifs et en esclaves, c'est vraiment la traite privée qui va prendre le relais. Et là, à ce moment-là, les Nantais se retrouvent extrêmement bien positionnés et Montaudoin va vraiment... on est pendant la guerre de succession d'Espagne, donc on est dans les premières années du XVIIIe siècle, va lancer une activité de traite à très grande échelle.
Et cette activité, elle atteint son apogée ?
Alors, elle atteint son apogée vraiment à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la décennie 1780 est vraiment la plus frénétique pour ces activités de traite. On est à un moment où la traite française atteint des niveaux extrêmement importants. C'est-à-dire que tous les grands ports après la guerre d'indépendance américaine se mettent à pratiquer la traite de manière extrêmement importante. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que l'économie coloniale atteint son apogée et cette économie coloniale repose sur le recours toujours plus important à la main-d'œuvre servile pour produire du sucre de canne, du café, du coton, de l'indigo et du cacao. Donc, on a toujours besoin de davantage de captifs et également, on peut signaler le rôle de la monarchie, qui est un rôle extrêmement incitatif par un système de primes qui sont octroyées pour l'armement des navires de traite et également pour l'introduction de captifs dans les colonies, la principale colonie étant Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Et paradoxalement, et c'est un mauvais clin d'œil de l'histoire. On peut dire que en 1789, l'année de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les Nantais n'ont jamais armé autant de navires de traite.
Et justement, vous disiez tout à l'heure que la ville recense environ 1800 expéditions. Vous parliez de Saint-Domingue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le parcours d'un bateau nantais ?
Tout à fait. Alors d'abord, avoir à l'esprit qu'un navire négrier ne part pas directement de Nantes. Il part de ports qui sont situés en aval, tout simplement parce que le tirant d'eau des navires de haute mer ne leur permet pas de remonter jusqu'à la Loire. Et au XVIIIe siècle, c'est vraiment Paimboeuf, c'est pas Saint-Nazaire, c'est Paimboeuf qui est le principal avant-port de Nantes. Donc le navire part chargé d'un certain nombre de marchandises qui vont être destinées à être échangées le long des côtes africaines contre des captifs. Un mot peut-être de ces marchandises, c'est d'abord des textiles. Les textiles représentent pratiquement la moitié de ces marchandises qui vont être exportées et qui vont être échangées. On a également des armes à feu, mais également des armes blanches, des métaux. Et puis, je dirais, un certain nombre d'objets que l'on qualifie sans doute un peu vite de pacotille. Et ce terme de pacotille a longtemps suscité des erreurs d'interprétation. On a pensé que les pacotilles, c'était finalement des marchandises qui n'avaient aucune valeur et qu'on allait pouvoir échanger facilement contre des centaines de captifs. C'est une vision qui est erronée, sur laquelle il faut vraiment revenir. armer un navire négrier nécessite des capitaux très importants et les marchandises qui sont envoyées le long des côtes africaines ne sont pas des marchandises de rebut, hein, comme on a pu pendant longtemps l'écrire. Un mot est aussi pour dire qu'on part également chargé d'alcool, hein, l'eau de vie, du vin également sont constitutifs des marchandises. Alors, arrivé le long des côtes africaines, on va mettre en place un certain nombre de tractations, hein, avec les autorités locales, qui sont donc des autorités qui dépendent des royaumes africains et qui vont autoriser la pratique de la traite. Là aussi, l'intermédiaire africain a longtemps été décrit comme quelqu'un de naïf, en gros, qu'on arrivait facilement à berner dans une bonne logique postcoloniale. En réalité, les travaux récents, et là je pense en particulier aux travaux de collègues africains comme Ibrahim Atioub, comme Aka Kwame, ces travaux montrent bien que l'intermédiaire africain joue un rôle majeur dans les tractations et que c'est quelqu'un qui est sûr de ses goûts et qui peut faire jouer la concurrence entre les puissances européennes. Ça veut dire que concrètement, lorsqu'un armateur organise une cargaison de traite, il faut qu'il trouve, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix pour lui. C'est-à-dire, si les marchandises ne sont pas appréciées, il ne va pas pouvoir acquérir ou faire acquérir par le capitaine du navire des captifs. Alors, ces tractations à la côte africaine, elles peuvent se dérouler de deux manières. Il y a d'abord ce que l'on appelle la traite volante, c'est-à-dire que le navire descend la côte et va charger les captifs sur différents points. Et puis, deuxième possibilité, la traite sur un point fixe, dans un comptoir. Hein. Là, en particulier, dans la première moitié du XVIIIe siècle, hein, c'est le comptoir de Ouida, hein, qui est situé au Bénin actuel, qui est vraiment le principal comptoir. Et puis, progressivement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la traite donc reste toujours dans cette côte de Guinée, hein, dans cette côte des esclaves, mais a tendance à aller de plus en plus loin du côté de ce que l'on appelle à l'époque la côte d'Angole. Une fois les captifs montés à bord, ils sont donc déportés, hein, par l'Atlantique pour la plupart d'entre eux et arrivent aux colonies. Ils sont donc vendus contre des marchandises coloniales qui vont être ramenées par le navire négrier.
D'accord. Donc, merci Bernard Michon. Avant de reprendre l'entretien, je vais passer à une pause musicale.
سكوز تران دغشنا وان تينيري ساستان أقام تكتفو تمي ديوان لتاسني تلاد الشكوى أين ينورني السنجي السنة تابان سكوز تران دغشنا وان Thank you.
c'était Sastadam Khan de Tina Riven. Vous êtes de retour dans Moment d'Histoire, la nouvelle émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps, sur Prime 92 FM. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes en histoire moderne. Pour cette occasion, nous parlons de la traite négrière à Nantes. Donc, on voyait avant la pause que cette activité était très lucrative. Portée par son essor économique, la ville doit s'étendre. On voit que la population double en un siècle, passant de 40 000 à 80 000 habitants. Comment Nantes, justement, a réagi à cette hausse démographique et quel a été son impact sur l'urbanisme de la ville ?
Le XVIIIe siècle est une période, vous l'avez dit, de très fort développement pour la ville. Et pour les historiens, l'indicateur démographique que vous avez indiqué est forcément le signe d'une ville attractive. Alors, c'est une ville qui déborde de ses remparts. Ils sont d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, je dirais, détruit à cette période-là. Et la ville se développe, alors particulièrement en direction de l'aval, c'est-à-dire en direction du fleuve. On a de nouveaux quartiers qui se construisent. D'abord, en suivant la rive droite du fleuve, on a les quartiers de l'Ermitage qui se développent. On est du côté également de Chantenay avec la construction d'entrepôts. Tout cela suit le port, le port de Nantes qui, de son port médiéval du port Maillard, se déplace vers la Fosse, puis vers la Chésine, vers Chantenay. Donc là, on a vraiment tout un développement. Et puis également, en direction du sud, vous savez peut-être que Nantes était composée d'un certain nombre d'îles, et ces différentes îles, qui aujourd'hui constituent l'île de Nantes, étaient des îles indépendantes, et progressivement, on va décider de mettre en place un certain nombre d'habitations, puis d'entrepôts. Et également, ce qui marque le XVIIIe siècle, c'est la construction de nouveaux quartiers. Alors on peut prendre peut-être deux exemples. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, une île qui s'appelle l'île de la Sauzaie, qui est située donc au sud de Nantes, est aménagée puis lotie par le subdélégué de l'intendant, c'est-à-dire l'adjoint de l'intendant de Bretagne, qui est également maire de Nantes, Gérard Mélier. Et ce lotissement devient l'île Feydeau, sur laquelle sont construits, alors pas tout de suite, mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un certain nombre d'hôtels, immeubles de rapport pour alors, des négociants en particulier. Et puis, peut-être un deuxième exemple, c'est la construction du quartier Gralin avec l'opéra qui est inauguré en 1788.
Merci. Je vous propose maintenant d'écouter les propos d'Alain Croix et d'Octave Sestor. Ils expliquent comment Nantes a décidé d'assumer son passé.
Et pour le moins distrait, effacé, comme s'il y avait une sorte de honte. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, au contraire, ce passé, ça s'est fait en quelques années, et maîtrisé, assumé.
Le passé s'est imposé grâce au travail d'associations, comme les Anneaux de la Mémoire, créés par Octave Sestor. Martiniquais, descendant d'esclaves, la ville l'a même nommé conseiller municipal.
C'est un juste retour des choses. C'est une façon, effectivement, de dire qu'on a sa place partout. C'est-à-dire qu'on peut être citoyen. On ne peut pas rester simplement sous le passé. Que Nantes ait fait ce geste montre aussi, c'était aussi une leçon de choses.
Donc c'est un reportage issu de France 2 en 2006. Bernard Michon, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Anneaux de la Mémoire ?
Tout à fait. Les Anneaux de la Mémoire est une association qui a participé à ce travail de mémoire qui a pu être évoqué par l'historien Alain Croix et par Octave Sestor dans l'extrait que vous avez diffusé. C'est une association qui est née en 1991 et qui a largement participé à la mise en place d'une exposition qui s'est ouverte au château des Ducs de Bretagne, l'exposition Les Anneaux de la Mémoire, ouverte en 1992, à la fin de l'année 1992, et qui a duré pratiquement donc un an et demi, hein, jusqu'au début de l'année 1994, et qui a été vraiment, je crois, un grand moment dans l'histoire de la ville, dans sa capacité à regarder une histoire difficile, douloureuse, mais à regarder un passé en face et à ne pas l'occulter. On a toujours su que Nantes était une ville qui avait participé très abondamment à la traite, mais les spécialistes le savaient, les gens qui s'intéressaient à l'histoire également, mais il y avait quand même une assez grande et assez large méconnaissance du grand public par rapport à ce passé négrier. Et il était véritablement important que la ville, à travers donc cette exposition, évoque ce passé. Et là, on peut dire que l'élection de Jean-Marc Ayrault, hein, comme maire de Nantes, a constitué un tournant, hein, par rapport à la période des années 1980, où, en particulier en 1985, hein, le colloque qui avait été organisé par l'historien Serge Daget à l'Université de Nantes devait être accompagné par une exposition grand public, hein, pour le tricentenaire du Code Noir de 1685. Et à ce moment-là, la municipalité Chauty avait s'était désengagée du projet, considérant que parler de ce passé, ça allait donner une mauvaise image de la ville. Et on voit bien quand même comment Nantes, à l'échelle de la France, a pu être une ville pionnière dans la redécouverte de ce passé et, j'allais dire, de faire aussi de, ce, de cette reconnaissance une forme d'atout pour, je dirais, s'imposer comme une ville attachée à la promotion aujourd'hui des droits de l'homme dans le monde.
Et donc, vous expliquez que c'était la politique qui a fait prendre conscience qu'il fallait... enfin, qu'il prenait conscience du devoir de mémoire.
Alors, je pense qu'il y a, un rôle tout à fait fondamental des différentes associations qui se sont mobilisées et des citoyens. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment un élan de citoyens pour citoyens, curieux, intellectuels, pour que ce passé soit reconnu. Après, évidemment, on est passé à une dimension politique, hein, mais sans la mobilisation citoyenne, il n'est pas évident, évidemment, que les politiques se seraient obligatoirement emparés de ce sujet.
Et quelle est l'actualité de l'association Les Anneaux de la Mémoire ?
Alors, c'est une association qui continue évidemment son travail. Alors, elle continue son travail à travers donc plusieurs axes. Le premier, c'est évidemment de continuer le travail, je dirais, vis-à-vis du grand public à travers l'organisation d'expositions. Il y a eu une grande exposition Mémoire libérée qui a été présentée donc en France, à Nantes, à l'hôtel du département. Il a été donc cette exposition est également présentée en Haïti, puis en Afrique, au Cameroun. Et il y a également là un projet qui est un projet qui consiste à organiser une exposition permanente pour une exposition donc pour une habitation caféière de la Guadeloupe, hein, qui est l'habitation de la Grivelière en Basse-Terre. Et donc voilà, donc on poursuit ce travail, hein, vis-à-vis du grand public. Et puis, il y a toujours les cahiers des Anneaux de la Mémoire. Hein. Vous avez eu la gentillesse de mentionner en début d'émission quelques cahiers auxquels j'ai pu participer. Hein. Donc, cette activité-là se poursuit. Le cahier 18, hein, qui a été publié assez récemment, est un cahier qui est justement consacré à l'histoire de la Guadeloupe.
D'accord. Merci. Donc, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller ?
Beaucoup d'ouvrages, hein, sur cette question de la traite et de l'esclavage. Je dirais que y a peut-être pour nos auditeurs la réalisation d'un documentaire qui a été diffusé par Arte, qui s'intitule Les routes de l'esclavage, qui, donc en quatre épisodes d'une heure à peu près, permettent vraiment bien de retracer cette histoire. Et ces documentaires ont été coordonnés d'un point de vue scientifique par l'historienne Catherine Kokrividrovitch. Et elle en a tiré un ouvrage publié chez Albin Michel, intitulé également « Les routes de l'esclavage ».
Merci Bernard Michon d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et tout de suite, une petite bande-annonce.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Vous êtes de retour dans le direct de Moments d'Histoire. Si vous souhaitez aller plus loin, Bernard Michon fait une conférence en partenariat avec Nantes Histoire sur l'impact des traites des Noirs sur le continent africain. C'est lundi 18 novembre à 18h15 dans l'amphithéâtre du Pôle Santé, rue Bias à Nantes. Donc nous sommes toujours en compagnie de Thomas Boileau. Avant de commencer un petit jeu, je vais lui poser une dernière question. En 2019, l'association bordelaise Diversité a recensé une dizaine de rues pouvant faire référence au passé négrier de Nantes. Par exemple, rue Kervegan, Maurice Thérien ou Colbert. Est-ce que vous pensez qu'il faut les renommer ?
Alors, il y a un vrai problème sur ce genre de questions, c'est que, d'une part, avoir des noms de rues dans une ville de négriers, de marchands qui ont basé une fortune sur la traite des Noirs, c'est un peu faire l'apologie de ce commerce. Et donc, il semble logique d'en changer les noms. Mais d'un autre côté, en changer les noms, ce serait un peu du maquillage. Ce serait un peu faire disparaître ces traces qui font la ville. La ville a choisi à un moment de prendre ces noms qui ont fait la ville, pour la représenter. Et ça fait aussi partie de son héritage et de son passé d'avoir choisi ces noms pour la représenter. Donc changer totalement les noms et faire disparaître ce choix, faire disparaître ce passé physique, ça, y a aussi un problème en mon sens, c'est que on peut pas maquiller son histoire comme ça. Enfin, si on peut, mais on ne devrait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme alternative ? Je ne sais pas. Avoir gardé les noms ou les changer, mais avoir une plaque explicative sur le nom ou l'ancien nom qui permette de situer l'histoire de Nantes.
Donc, quand vous sortirez à 3h du matin du Petit Marais ou de l'air de rien, vous penserez que la rue Kervegan, c'était celle d'un maire qui, au début du 19e siècle, a pris part à la traite négrière. Donc, avant de démarrer la dernière partie d'émission, je vais faire place à une petite pause musicale.
Minuit passé, c'était pas de l'ennui, j'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette. Les lumières dansaient, elles éclairaient ses yeux. C'étaient les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a suivie. Je crois plus au hasard depuis cette nuit. Je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue. Thank you. bleus. Elles éclairaient ses yeux bleus. C'était les reflets bleus.
C'était La femme à la peau bleue de Vendredi sur mer. Donc, nous sommes de retour dans le direct. Est-ce que ça va, Thomas ?
Ça va très bien.
Donc là, on va faire un petit jeu. C'est un Fast and Curious version histoire. La règle est simple. Je vais vous énoncer deux propositions dans une thématique. Vous allez devoir tout simplement en choisir une selon vos préférences et argumenter pourquoi en quelques mots.
Et bien, c'est parti.
Première proposition. Alexandre le Grand ou Jules César ?
Alexandre le Grand.
Pourquoi ?
Parce que, je sais pas, c'est un récit un peu plus romancé, un peu plus épique que Jules César et ses calculs politiques. Et puis parce qu'on en a soupé du Jules César et on voit pas assez Alexandre le Grand.
C'est bien vrai. Donc il y a un sujet qui est un peu d'actualité, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris ou celle de Reims ?
Alors là-dessus, oh, disons Paris.
Disons Paris.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas argumenter.
Alors, deux figures de l'histoire de France maintenant. Charles de Gaulle ou Napoléon ?
Waouh, c'est...
À l'instinct.
Je peux pas choisir Napoléon.
Je peux pas
choisir Charles de Gaulle non plus.
Ouais.
Donc, non, je sèche sur celle-ci. Désolé, Nicolas.
Pas de souci. Bon, et une dernière. L'histoire de Nantes ou l'histoire de Paris ?
Oh, l'histoire de Nantes.
Ouais, mais ça fera plaisir à certains auditeurs. Donc maintenant, c'est déjà la fin de l'émission. Si elle vous a plu, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Prune et sur la page Facebook Moment d'histoire-prune92fm. Merci Thomas Bolo d'avoir répondu.
Merci Nicolas de m'avoir invité.
Mais pas de souci. Merci aussi à Bernard Michon qui est venu dans nos locaux ce matin. Donc maintenant, on va se retrouver le jeudi 21 octobre entre midi et 13h pour un prochain numéro de Moments d'Histoire. Chers auditeurs, merci de votre attention et bonne journée.
Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.